Sexploration. Sexploration sur RCN. Lucille Bach.
Pourquoi le BDSM intrigue autant et fait encore peur? Et comment, surtout ça, s'initier sans se brusquer ni se mettre en danger? Bienvenue dans Sexploration, le podcast qui t'aide à reprendre le contrôle sur ta sexualité. Salut Chloé.
Salut Lucille.
Aujourd'hui, ça va être sensualité. On va explorer les bases du BDSM, le consentement. Sûr à 100%, la sécurité bien évidemment, et la découverte de soi à travers ces jeux de pouvoir. Toi, avec ton expertise de sexologue, on va en découvrir davantage et en découdre. Qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ce qu'on appelle BDSM?
Alors on va reprendre la base de la base, c'est bondage, domination,
soumission.
C'est à peu près pareil, sado-masochisme.
Ok.
Et donc, tout ce grand mot qui, de base, normalement, est séparé. C'est-à-dire que dans les gros milieux voilà, de cet univers, c'est BD d'un côté, SM de l'autre. De base, ça n'a pas de lien ensemble. Là, c'est vraiment nous qui faisons un petit peu cet amalgame-là, mais ça reste quand même, normalement, deux univers un petit peu séparés.
Et pourquoi cet univers, il fascine autant et surtout qu'il est entouré d'énormément de fantasmes.
Alors, ça intrigue beaucoup parce que c'est un univers où on mélange consentement, violence, consentie, bien évidemment, repousse des limites. Et on va dans des pratiques qui peuvent être extrêmes et qui peuvent choquer. Donc finalement, on va dans... Tu prends tes normes sociétales, tu les fous à la poubelle. et finalement, c'est un petit peu le résumé de tout ça. C'est-à-dire que c'est dans une liberté qui est totale. Ça va être une confiance aussi avec les personnes avec lesquelles on pratique, qui est totale aussi. C'est-à-dire que ça ne se fait pas avec n'importe qui, dans n'importe quelle condition. Et c'est pas comme on voit en fait dans les films. C'est simplement qu'on n'a pas l'arrière. On n'a pas les conversations qui ont été faites avant entre les deux personnages. C'est vraiment des choses où on a l'impression que la femme ou l'homme souffre terriblement, mais c'est des moments qui sont totalement consentis. C'est de là qu'ils tirent vraiment leur plaisir.
Et puis, comme on vient de dire, il y a des normes de sécurité.
Exactement.
Il y a des clichés aussi qui s'attardent au BDSM. Quels sont ces clichés et qui autour des personnes qui les pratiquent justement?
Ouais, les clichés, ça va être un petit peu, c'est forcément pervers, c'est forcément la nana ou l'homme qui va être habillé en cuir de la tête aux pieds, avec la laisse autour du cou, enfin
avec les picots.
Voilà, c'est ça existe, ça en fait partie, mais c'est très réducteur.
Tu disais que voilà, c'était souvent relié à une forme de plaisir via violence consentie, hein, on en revient toujours à ça, mais est-ce qu'on peut aimer justement le BDSM sans qu'il y ait pour autant une affection envers cette douleur?
Bien sûr, parce que c'est un univers où tu mets tes bornes. Donc si tu n'aimes pas avoir mal, tu n'auras pas mal. On peut te mettre dans des violences qui ne vont pas être douloureuses. Mmh. C'est-à-dire qu'on va pouvoir te faire peur avec le vide, par exemple, te suspendre, avoir un lâcher prise total. Ça peut être une peur si tu es quelqu'un, en général, qui ne lâche jamais prise. Mmh. Donc on parlait, par exemple, dans un épisode précédent du Shibari, il peut y avoir une forme d'excitation sexuelle qui peut se faire très forte, sans qu'on ait à te toucher, parce que justement, tu es dans un lâcher prise. C'est bien pour ça qu'on retrouve souvent des catégories socio-professionnelles très importantes dans ces milieux-là, parce que ça va en contrebalancement total de ce qu'ils sont au quotidien.
On parlait aussi d'un certain état d'esprit un peu en off hein, précédemment. Voilà, un peu pour l'anecdote que j'étais un peu en train de dire à Chloé, c'est que moi j'ai le frère de mon meilleur ami qui m'a déjà exprimé une fois que certains étaient vanille, certains étaient chocolat. Voilà, pour un peu l'explication, on va dire certains sont soft et certains sont chaud patate. Et de façon un peu plus sauvageon. En quoi ces pratiques, donc BDSM, sont totalement en fait différentes de cette fameuse sexualité dite vanilla?
Parce qu'on va rentrer dans... En fait, on va jouer sur ta morale, on va jouer sur tes peurs, on va jouer sur tout ce qui est normalement... dans une vanille, on va dire, quelque chose qui est safe, qui est du confort. Mmh. Là, on va sortir de tes zones de confort, justement, on ne va pas être dans un confort du tout. On n'est pas dans de la pénétration pour de la pénétration, on n'est pas du tout dans un moment... J'ai pas envie de dire amoureux, parce que même dans le BDSM, ça peut être amoureux dans certains cas, mais on va vraiment être dans la repousse de limites, chose qu'on ne va pas être dans le quotidien.
Est-ce que, pour toi, il y a un certain âge ou pas pour s'initier à ce type de pratique ?
Non, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de catégorie socio-professionnelle non plus. la seule chose, c'est encore une fois y aller en connaissance de cause, savoir où on met les pieds. Et se faire initier, si on veut, c'est un peu comme toutes les choses, c'est avoir quelqu'un qui vous initie avec un certain professionnalisme et une certaine confiance. Si vous voulez démarrer en couple, au moins c'est assez sécurisé, parce que là vous mettez vos termes et conditions et le partenaire vous le connaissez d'avant.
Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi aussi il y a une différence énorme à bien distinguer entre ce qu'on évoquait à l'instant, violence, et aussi ce qui est consenti dans ce jeu ?
Parce qu'il peut y avoir, visuellement, pour quelqu'un qui n'est pas de ce milieu-là, quelque chose de très choquant, c'est-à-dire des baffes. Ça peut être des objets, des cartements qui vont être utilisés, ça va être par exemple des choses pour bloquer la mâchoire, ouais. Pour bloquer certains mouvements, des barres de contention, ça peut être énormément, enfin c'est très varié. Pour nous, ça peut choquer parce qu'on a vraiment cette impression de souffrance et de douleur et que c'est quelque chose qui est punissable. Tu vois, c'est quelque chose qui est moralement pas acceptable de faire ça parce qu'on fait souffrir quelqu'un, donc c'est pas dans ce qu'on nous a inculqué. Donc ça va nous questionner, ça va choquer en disant mais pourquoi il fait ça ? Enfin, il a l'air de souffrir le martyr, pourquoi il continue ? C'est nimp, hein. Ils sont juste là pour se faire mal. Non, ils sont pas là pour juste se faire mal. C'est des pratiques de repousse du corps. Comme, j'ai envie de dire, pour prendre un autre truc, ça va être l'alpinisme. Bah, l'alpinisme où le mec qui court 130 bornes dans un ultra-trail, bah, ça reste des repoussements de soi.
Oui, complètement. On parlait beaucoup de consentement, de mots d'ordre en termes de sécurité, etc., etc. On met un point d'honneur justement au BDSM à ce mot de consentement. Eh bien, pourquoi ?
Parce que tout simplement, il ne faut pas transgresser entre la légalité et le consentement. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont immorales, mais qui ne sont pas illégales. Et donc souvent, on fait un petit peu cet amalgame de dire bah, « si c'est immoral, bah, il ne devrait pas le faire ». Ça ne vous concerne pas si vous ne l'êtes pas dans ce moment-là. Donc à partir où ces deux personnes le font, où elles ne dérangent personne d'autre qu'elles, elles sont toutes les deux consentantes sur ce qui se passe et qu'il n'y a aucun problème, il n'y a pas de souci. On peut, par exemple, dans ce jeu, on voit souvent du dogging. Alors le dogging, c'est le fait qu'un partenaire en amène un à un point précis de rendez-vous et il peut y avoir une dizaine de partenaires qui les attendent en pleine nature. C'est des choses, ça peut choquer si c'est pas ce que vous aimez, ce que vous ressentez, et que ça peut vous choquer. Mais à partir du moment où ils le font dans un endroit, entre guillemets, clos, où il n'y aura pas de regard malveillant, etc., ça ne pose aucun souci, parce que la partenaire est consentante.
Oui, et puis on évoquait voilà, qu'il y a aussi une certaine communication qui se fait au préalable, je pense, bien sûr. Tout simplement, qu'on pose les choses bien avant. Comment on va exprimer justement ses limites, ses besoins ? Il y a aussi ce qui se met en place des safe words, bon, on va dire simplement des mots de sécurité. Comment tout ça, selon toi, comment tout ça se met en place au préalable ?
Bah, ça se met en place un petit peu comme une discussion de contrat, on va dire. C'est qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas ? Et quelles sont un peu les zones de flou ? Parce qu'on n'a pas testé, on ne sait pas encore quoi en dire. Et bien à ces moments-là, par exemple, on va reprendre l'exemple du dogging. À partir de ce moment-là, si la femme, par exemple, dit bah « voilà, moi j'aimerais bien tenter, tu me fais entre guillemets la surprise, on essaie », ou quelqu'un qui se retrouve dans un dojo pour essayer sa première expérience, si on fait un acte, c'est-à-dire qu'elle, elle sort de la voiture et que finalement, elle se rend compte que les trois quarts des types ne lui plaisent pas et qu'elle n'a pas envie, chacun repart chez soi et ça doit être terminé. Il ne doit pas y avoir de forcing ou de bah, « ils sont là, je vais le faire du coup ». Non, c'est « on ne veut pas, on ne le sent pas, on ne le fait pas ».
Toujours on parle de consentement et d'avoir envie ou non. Voilà. Il y a des signaux aussi qui peuvent parfois apparaître quand on est déjà, on va dire, sur le terrain en l'occurrence. qui vont aussi nous permettre de voir si l'autre est à l'aise ou pas à l'aise. Quels seraient ces signaux éventuellement ?
Bah, on va avoir souvent, par exemple, dans ces milieux-là, on va avoir un des deux qui est du milieu et pas l'autre. Et donc, du coup, il peut y avoir des profils qui sont très mal intentionnés, dans le sens où ils vont se dire bah, je vais un peu l'initier. Elle, elle est un peu curieuse. Finalement, ça ne lui plaît pas du tout, mais il va un peu forcer le truc en disant mais si. Et elle, finalement, pour faire plaisir, ou il, pour faire plaisir, va dire bon, bah, allez, on tente. Et finalement, tu le ressens très fortement parce que c'est quelqu'un qui ne va pas être dans la démonstration d'un plaisir quelconque, ça va être une réelle souffrance pour lui et ça tu ne peux pas la feindre, la vraie souffrance. Il y a ces mots d'alerte qui peuvent être mis en place et souvent après tu vois des comportements prostrés où ça revient en rêve, où ça... et là c'est qu'on a subi vraiment quelque chose qui n'est pas en raccord avec ce qu'on a voulu faire.
On dit souvent voilà, que le BDSM si c'est aller dans l'extrême, mais si tu as envie imaginons de quand même t'initier à ça, mais sans aller dans l'extrême, est-ce que c'est possible d'explorer tout ça ?
Bien sûr, il y a certains lieux de sadomasochisme où tu peux y aller sur certaines journées où ils vont te faire une espèce de journée un peu découverte. C'est-à-dire, on voit ça dans les clubs libertins, c'est-à-dire c'est une journée où tu ne participes à rien, tu visualises, tu vois ce qui se passe vraiment dans ces endroits-là, tu vois comment c'est fait, comment ça se met en place, et tu peux, si tu as envie, sur d'autres journées, participer. Mais de façon soft, c'est-à-dire que un peu comme si t'allais quelque part et que tu signais un petit contrat au départ, tu coches. Ça j'aimerais bien, ça je sais pas. Et c'est tout de suite, bah, si j'ai pas envie, ça doit être un non ferme et définitif.
Je pense qu'il y a aussi, après ce type d'expérience, on a envie peut-être aussi d'en parler, de peut-être de reposer d'autres limites ou d'autres choses de besoin éventuellement qui sont ressorties. Comment on va mettre en place ces discussions après cette pratique ?
Bah, c'est simplement, voilà, le moment s'est passé, on va dire qu'on a essayé, le moment se termine, on va dire que les bougies s'éteignent. Et c'est finalement revenir aussi dans une safe place, là, pour le coup. Donc, si on aime bien les câlins, c'est justement se prendre dans ses bras l'un et l'autre, et bah, qu'est-ce que t'en as pensé, comment t'as trouvé ça ? C'est essayer finalement de voir le ressenti qui a été. Si on n'est pas du genre forcément à parler, c'est... redemander à tenter une expérience. Si on voit que la personne dit non, bon, faut pas chercher midi 14h, c'est que la découverte, bon, bah, ça va plus, ça a pas matché du tout, quoi.
Oui, puis on peut, comme on dirait à l'instant, c'est qu'on peut y aller en douceur pour s'initier tout simplement. Mais est-ce qu'on peut s'initier solo aussi, ou est-ce que c'est forcément en couple ?
On peut s'initier solo. On peut aller dans des clubs spécialisés. On peut aussi l'expérimenter soi-même à la maison. C'est-à-dire qu'on va dans des boutiques. Là, nous, à Nancy, on en a forcément une bonne qui, justement, là, travaille avec des gens pour lesquels il y a vraiment un bon panel de produits qui sont dits BDSM, mais ça va être de qualité. On va pouvoir, par exemple, prendre une petite roulette à picot. Bah, on peut l'expérimenter sur soi. Une paddle à fessée, on peut essayer sur soi, voir ce que ça fait de se prendre une fessée. On peut y aller vraiment crescendo. Le fait d'avoir des liens, est-ce que c'est des choses qu'on aime bien ? Le fait d'avoir un truc autour du cou, est-ce que c'est des choses qu'on aime bien ? Mais toujours en se disant, on le fait avec sécurité. C'est-à-dire que si c'est des produits qui sont vendus en boutique en France, dans des bonnes boutiques, il n'y a aucun problème, on sait qu'il n'y aura pas de problème de sécurité. Et surtout, ne pas hésiter à demander aux vendeurs. Chez Audace Annoncé, vous demandez aux vendeurs, forcément, ils vont vous conseiller, et bien.
Et tu parlais d'accessoires, de divers accessoires. Est-ce qu'il y aurait des accessoires de base, justement, qu'on disait qu'on peut faire utiliser à la maison ?
Oui,
mais sans danger, bien sûr.
Je veux dire, même sans investir forcément dans des objets. Vous prenez, par exemple, pour une bretonne, c'est dur d'oublier ça. Vraiment. Pour retourner les crêpes, elle a votre spatule. Et par exemple, si elle est en bois ou si vous avez une petite cuillère en bois, essayez avec la cuillère en bois, avec une ceinture, la cravate pour faire des liens. C'est finalement prendre des objets du quotidien. Je déconseille fortement à domicile d'essayer de faire tout ce qui va être... comme des laisses, par exemple, avec des colliers qui vont pouvoir serrer. Parce que là, c'est un coup vraiment à terminer aux urgences, parce qu'on n'aura pas dosé la force, etc. Donc si vous voulez des colliers, des choses comme ça, prenez ça directement en magasin, parce qu'ils sont faits pour soit pouvoir se détacher, si le serrage est trop maximum et que la force est trop mise, ou au moins à être serré d'une certaine manière où ça ne peut pas vous blesser et vous ne pouvez pas suffoquer avec.
Puis l'accessoire est plus adapté, parce qu'il
exactement.
Est confectionné pour ça.
Il y a des endroits où il ne faut pas improviser.
Et justement, en étant dans ce magasin éventuellement, est-ce qu'il y a bien des accessoires qu'on peut chiner pour pouvoir commencer la pratique ?
Il y a des petits kits qui se font. Il y a aussi des petites paddles en cuir, par exemple. Il peut y avoir des martinets. Mmh. Alors ça, il y en a encore d'âge. Il y en a plein. Il y en a même des faits main. J'ai trouvé ça incroyable, d'ailleurs. C'est-à-dire que vous mélangez finalement l'artistique avec un objet BDSM, donc c'est encore plus sympa. C'est les petites rodettes à picots dont on parlait, ça peut être des liens, ça peut être un petit peu de cordage, s'essayer aussi au shibari à la maison, c'est possible, par des nœuds simples, voilà, on se prend un peu pour un batelier quelques instants, on fait des nœuds de 8, et tout ça pour dire que finalement, tout peut être plus ou moins BDSM selon ce qu'on a envie finalement d'y inclure là-dedans, et ce qu'on a envie d'y mettre comme image.
Est-ce qu'on peut dire que c'est... Pas du tout. Est-ce qu'on peut dire que c'est la théâtralisation ?
Bien sûr. C'est totalement de la scénographie.
Okay.
C'est le fait de mettre des pinces tétons, par exemple. Déjà, ça peut être esthétiquement joli. Et c'est aussi la visualisation de ce qu'on fait qui nous excite. C'est-à-dire que corporellement, quand tu mets une fessée à quelqu'un, quand toi, tu es celui qui met la fessée à quelqu'un, si tu utilises un objet, il n'y a pas de sensation pour toi.
Mais c'est pas directement sur la terminaison nerveuse.
Corporellement, on n'a rien touché. Mais le fait de la voir, cette personne, s'exciter, forcément, ça a un impact.
Est-ce que tu penses que l'imaginaire, les jeux de rôle, quand on est au tout début de cette initiation, ça suffit à explorer le BDSM ?
En BDSM soft, oui, clairement. Je pense que c'est déjà pas mal.
Et si on avait un conseil potentiel pour la première fois à donner à quelqu'un qui veut s'initier ?
Y aller crescendo et encore une fois se renseigner. Je sais qu'en ligne vous trouvez beaucoup de maisons, on va dire, ou de dojo qui pratiquent dans tous les sens du terme cet univers là. Ils peuvent vous conseiller, ils tiennent même souvent des blogs.
Ouais.
Essayez de vous renseigner pour voir ce qu'il faut ou pas faire.
Maintenant, on va écouter SM de Rihanna. On se retrouve dans quelques minutes. Na, 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 come on.
Come on, come on, come on, come on, na na na, come on.
RCN, Sexploration, Lucille Beck.
Précédemment, on se donnait des petits tips hein, pour se lancer doucement dans la pratique BDSM, comment s'initier. Je voulais savoir avec toi pourquoi il y a certaines personnes qui trouvent du plaisir à céder ou prendre le contrôle justement.
Bah parce que c'est des personnes, comme on disait un petit peu au départ, qui dans la vie quotidienne ne sont pas du genre à lâcher prise, ne sont pas... sont plutôt justement les dominants, ont des postes voilà, qui ont des responsabilités. Donc forcément, ce lâcher prise fait du bien. C'est un truc qu'on n'a pas forcément au quotidien. Et c'est notre bulle un peu de se dire, bon bah là... Là, ça me fait du bien parce que pour une fois, c'est pas moi qui domine, quoi.
Et justement, comment on teste progressivement son rapport au pouvoir ou à la soumission ?
Bah, ça peut être déjà doucement par des échanges, des discussions, un peu comme des sextos, où on jauge un petit peu si effectivement être dans ce rôle de soumission ou au contraire de domination nous plaît ou nous plaît pas. Et après, c'est à la réalisation. Alors, il va y avoir deux chemins. Soit ça plaît, soit on part en énorme barre. Parce que d'être dans le rôle là, finalement, on voit que ça ne nous correspond pas et on en rigole parce qu'on se dit non, ça ne marche pas. T'entendre dire ça ne fonctionne pas.
Donc en fait, ça veut dire qu'on peut être chamboulé, comme on peut kiffer de ouf de l'avoir pratiqué à cette séance de BDSM, mais du coup, il y a des émotions forcément qui vont après.
C'est soit, en fait, c'est un peu comme tout, c'est-à-dire qu'il faut faire, faut réussir à faire la séparation. C'est comme des couples libertins qui ne pratiquent par exemple qu'en club. Il faut réussir aussi à repartir dans son quotidien où la sexualité ne va pas être la même. On n'est plus du tout dans le même registre, on n'est plus dans la consommation sexuelle pour la consommation sexuelle, mais là on est avec notre conjoint ou conjointe.
Ce rapport en fait de pouvoir et de soumission, est-ce que ça peut aussi travailler un petit peu notre, alors j'allais dire confiance en soi, non pas du tout, notre estime de soi, grâce, ou non, je ne sais pas comment le formuler, à ces pratiques ?
On peut, ça peut être le cas. Je pense pas que c'est le premier effet secondaire entre guillemets de tout ça, mais je pense que effectivement ça peut être finalement se dire bah je me connais mieux, je sais ce qui marche, je sais ce qui marche pas, et là je prends ce rôle là et quand j'ai ce masque, bah, finalement je suis entre guillemets tout pouvoir.
On parlait aussi que voilà ça déclenche certaines douleurs, mais c'est des douleurs qui font plaisir.
Exactement.
Pour un peu illustrer ça, pour que ce soit peut-être un peu plus parlant pour nos auditrices, auditeurs, qu'est-ce que ça serait comme douleur, même légère hein.
Bah, ça peut être des griffures, ça peut être des pincements, ça peut être des fessées à plusieurs échelles. Hein. Y a, sur l'échelle de Richter, il y a le 1 et puis il peut y avoir le 10. Hein. Donc ça peut secouer. Ça peut être des étranglements.
Ouais, je pense à ça.
Je mets encore un warning à côté d'étranglement parce que il faut, voilà, c'est pas une tentative de meurtre. Hein.
Exact.
Ça peut être des coups de jus. Enfin, il y a vraiment de tellement de choses finalement, ça peut être le fait d'avoir des choses qui vont bloquer la respiration, il y a beaucoup de choses et beaucoup de dérives aussi, c'est-à-dire que c'est vraiment toujours une pratique où on ne doit pas se mettre en danger, ou alors c'est un danger qui est maîtrisé à la perfection et on connaît les risques, hein. C'est-à-dire qu'on le fait mais en connaissance de cause, c'est-à-dire que si on va dans des pratiques aussi extrêmes, c'est pas du jour au lendemain et c'est pas comme ça un dimanche qu'on se dit bah tiens on va tester ça Mireille hein. C'est des années et des années de pratique avant.
Oui, bah tu m'étonnes. Alors, totale sécurité, c'est le principal surtout. Je pensais à ça parce que je continue un peu dans la lancée, mais quand on pratique ou qu'on découvre en tout cas le BDSM, on explore aussi certaines facettes de nous-mêmes qu'on n'a pas forcément connues auparavant. Est-ce qu'on se découvre une autre personnalité ? Est-ce que c'est nous, mais juste en extension ? Je ne sais pas.
Bah, ça peut être une partie de nous, c'est-à-dire que c'est un petit peu comme les personnes, on va prendre un petit peu quelque chose de plus classique pour que ce soit compréhensible par tout le monde, mais on va dire la Japan Expo. Et ben, y a beaucoup de cosplay, il y a beaucoup de personnes qui vont se mettre dans des rôles, et ça leur fait mais un bien fou. C'est-à-dire que c'est des gens, quand on les croise à la Japan Expo, ils ont une confiance en eux, c'est un truc de fou, alors que vous les croisez au quotidien. Absolument pas. C'est simplement vivre un moment où on est soi, mais dans son rôle, et on kiffe son moment dans son rôle.
Je pense qu'il y a aussi des impacts qu'ils peuvent avoir après une pratique BDSM, physique, psychologique, qu'importe, mais il faut les connaître Est-ce que tu as peut-être déjà des petites choses à nous transmettre à ce niveau-là?
Bah, ça va être forcément tout ce qui va être des traumatismes. Donc, quand on va outrepasser finalement ses limites, on a été dans une cour de récré qui était beaucoup trop grande pour nous. C'est aussi c'est prendre en compte ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a déjà pas le temps finalement pour une sexualité et une intimité, j'ai envie de dire, normale, ouais, standard, banni, comme tu disais tout à l'heure. Donc aller dans ces mondes-là, aller dans tout ça, ça prend un temps. C'est pas, on n'y va pas comme ça du jour au lendemain, tête bêche. C'est beaucoup de pratiques, c'est beaucoup d'écoute, de mesure des choses. On peut bien évidemment se dire, bah, tiens, j'ai envie de tester, par exemple, la fessée un peu plus fort que d'habitude. Et finalement, ça fait mal, on n'a pas envie. Mmh. Ça va pas être traumatique pour autant. Par contre, si on part tout de suite en se disant « je veux me faire enfermer dans une cage » et que finalement ça nous rappelle à des traumas qu'on a oubliés, ouais, là ça peut être dangereux parce qu'on réveille des choses qui n'auraient pas fallu. On a été beaucoup trop vite en besogne.
Et justement, faire peut-être le distinguo entre pratique érotique saine et complètement on dérive dans le danger. Comment on va pouvoir distinguer tout ça quand même?
À partir du moment où il y a une atteinte au corps, c'est-à-dire des saignements, des choses comme ça, c'est une catégorie de personnes qui le pratiquent de cette manière qui est très 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 peu, et c'est de l'entre-soi, c'est limite, j'ai pas envie de dire sectaire parce que c'est pas vraiment le terme non plus, mais c'est la limite de la franc-maçonnerie, quoi. On reste entre nous, c'est notre truc, et tu ne le verras toi jamais de ta vie, c'est des espaces
c'est l'intimité,
clos totalement.
Pourquoi l'aftercare il est si essentiel après une séance de BDSM justement?
Parce que ça doit pas être ta routine. Sauf parce que si tu veux le pratiquer de manière, on va dire, récréative, soft, ça ne doit pas être ta routine. Ce rapport de force ne doit pas rentrer dans ta relation. Mmh. Ou finalement, tu as ton rôle de dominant ou de dominante qui interface dans ta vie. Et là, ça devient n'importe quoi, où tu commences à parler à ta conjointe ou à ton conjoint de manière totalement débile, quoi.
Est-ce que tu penses que avoir ce type de pratique peut déséquilibrer, bah justement ça fait un peu écho à ce que tu viens de dire, mais déséquilibrer ta relation de couple, en tout cas relation avec la personne à qui tu es, sans pour autant, comment on peut garder en fait cette relation équilibrée quand on a eu ces genres de rapports de pouvoir en fait?
Il n'y a pas de problème quand c'est orchestré avec connaissance et avec intelligence. Quand il y a ce genre de choses, c'est que c'était pas pour nous. On a voulu jouer trop haut et on s'est blessé en vol finalement. Donc c'est aussi se dire, un peu notre faute d'avoir été trop loin. On n'avait pas mesuré les risques et aujourd'hui, malheureusement, on paye un peu les pots cassés. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on fait pour se réparer? Et quand je dis ça, je parle absolument pas de quelqu'un qui serait dans le profil d'avoir voulu tester et qui s'est fait violenter. Je parle pas de ça. C'est vraiment deux personnes qui sont consentantes ou se sont dit que c'était pas chouette et finalement on n'a pas su mettre des barrières.
Donc le mot d'ordre pour cette fin d'épisode, c'est pratiquer le BDSM mais en toute sécurité.
La fessée avec l'échelle de Richter.
Exact. En tout cas, merci pour avoir partagé ton expertise encore une fois. Le prochain sujet est à découvrir sur Instagram, sexploration.lucille.bac. Si ça t'a plu, si cet épisode t'a fait vibrer, partage-le, note-le, parle-en. On se retrouve chaque jeudi pour casser la routine avec Sexploration. Bisous, bisous.
Bisous.